j'ai envie d'être coincé puis que mon geste, que mes bras s'aient rapprochés de moi, sinon je suis en train de donner des claques d'en face au premier. J'ai envie que le compte, ça soit quelque chose qu'on fasse à l'étroit. Je sais jamais trop à quoi le monde s'attend quand ils s'en vont voir un spectacle de compte, ni à quoi ils s'attendent quand ils téléchargent un balado supposé parler de compte. Mais ce que je sais, c'est que je m'appelle Patrick Dubois, je suis conteur et je m'en vais vous parler en long et en large de ce qu'a été pour moi la grande aventure d'être conteur d'histoire. Et vous écoutez « Il était une fois dans l'Est ». Dans ce 20e épisode, je vais vous parler de mon rapport à la scène. Dans les premières années où je comptais, comme je vous ai raconté, une des choses qui était la plus importante pour moi, c'était le lien avec le public, c'était jouer avec cette relation-là. Puis, au fil du temps, j'ai découvert des histoires qui se sont mis à prendre un peu plus de place pour moi puis à me faire négocier entre mon lien avec le public puis mon lien avec l'histoire. Mais vers 2017, j'ai commencé à m'ouvrir au milieu du compte. C'est-à-dire que j'ai sorti de ma bulle, j'ai sorti de mon petit village et j'ai été dans d'autres festivals un peu plus. Je me suis promené à travers le Québec à aller à rencontre de d'autres conteurs-conteuses pour voir d'autres manières de faire, comme je vous en ai parlé dans l'épisode précédent, et créer des liens aussi avec ces personnes-là, découvrir des collègues de travail. Cette ouverture-là vers les autres m'a fait réaliser d'autres manières de compter et m'a fait constater une espèce de courant du conte au Québec. Où est-ce que plusieurs conteurs-conteuses ont une approche qui est beaucoup plus théâtrale? Alors, on va avoir du monde sur une grande scène qui joue avec l'éclairage, qui joue avec la musique, des marionnettes, qui ont des chorégraphies, qui ont vraiment une conscience de l'esthétisme de ce qu'ils présentent qui est très, très forte. Et ça m'a fait réagir énormément. Ça m'a fait réagir, d'un, dans mon appréciation. Moi, en tant que spectateur, c'était quelque chose avec lequel je connectais moins, ou du moins j'avais moins l'impression d'être en présence d'un conte, mais plutôt d'une performance. Et en même temps, tout égout de son en nature, puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire la patente. Chacun marche son chemin. Mais moi, ça me faisait découvrir le mien. Ça me faisait préciser que dans ma pratique, je voulais tout sauf aller vers là. Comme, je veux dire, ma vie en ce moment est designée par une réaction à notre société. Je pense que je vis beaucoup en réaction aux choses et ma manière de compter est également en réaction. Quand j'ai vu ce courant-là dans le milieu du compte, clairement, j'ai pu identifier que moi, j'en faisais pas partie et que je voulais pas en faire partie, que j'avais envie d'être une manifestation de l'inverse de ça, d'accentuer encore plus l'importance pour moi d'avoir reçu le compte d'une manière orale, de pas le laisser s'enregistrer, d'être en voyant que j'étais un des rares pour qui c'est important. Eh bien, c'est devenu encore plus important pour moi. Que veux-tu, je suis fait de même. Mais clairement, j'ai été en réaction. Ça a renforcé mon idée de déconstruire la scène, d'être proche du public le plus possible et d'insister sur le fait que le conte, pour moi, ça devrait être une relation de proximité avec le public. Tu sais, pour moi, le conte, c'est un peu une bestiole qui est tout terrain. C'est capable d'aller un peu partout. Sur un break à job, tu peux raconter un conte si tu veux, si le moment est opportun. Mais le même conte pourrait être raconté devant 100 personnes comme devant 4 personnes. Il pourrait être raconté dans le noir comme sur une scène. Il faut que cette chose-là puisse se manifester dans plein de contextes. Pour moi, c'est un des propres du conte. C'est quand même une des particularités. Je veux dire, tu vas pas... ce serait difficile de jouer du Shakespeare dans le salon chez vous. Une troupe de théâtre ne va pas pouvoir s'adapter à ce point-là parce qu'il y a plein de contraintes qui ne le permettent pas. Bon, je généralise, mais le conte, lui, il peut le faire. Et quand je vois du conte se ramasser sur une grande scène de diffusion pluridisciplinaire dans une espèce de petit amphithéâtre avec une scène qui est lisse, avec des estrades devant qui sont plongées dans le noir, avec des projecteurs, avec une sono qui est contrôlée, il n'y a pas de bruit extérieur, c'est un environnement qui ne sera pas parasité par quoi que ce soit qui vient de l'extérieur, qui permet d'avoir un lien avec l'œuvre qui est beaucoup plus, si on veut, qui est plus fort parce que l'œuvre, elle est intacte. On a vraiment le contrôle sur ce qu'on va livrer. Mais en même temps, pour moi, le conte, ce n'est pas quelque chose qui est fait pour être livré dans un contexte stérile. C'est comme si tu prenais un gros pick-up avec des gros pneus faits pour aller jouer dans la vase, puis que tu faisais une course de pick-up comme ça, mais sur une piste de F1, qui est la chose la plus lisse, la plus parfaite possible, je trouve qu'on vient de perdre une occasion de montrer à quel point le pick-up, ça peut être impressionnant. Parce que tout d'un coup, il est juste plate. Tout d'un coup, il est lent pour cet espace-là. Et c'est pas que le conte qui est fait sur scène, c'est pas du conte. Quoique c'est souvent du théâtre qui simule le geste de conter. Quand on fait à semblant de regarder le public, quand on fait à semblant de chercher son idée, pour moi, il y a un mensonge là-dedans que je suis pas prêt à accepter. Et en même temps, les gens sont venus se faire raconter des histoires. Quand même bien que l'histoire qu'ils se font raconter, c'est que tu fais à semblant de chercher ton histoire. Ça tient aussi la route. Mais moi, dans ma pratique, en ce moment, en 2024, j'ai envie de dire que mon conte, ma manière de le porter, ça sera dans une scène qui sera la plus déconstruite possible. J'ai envie de conter dans des ruines. Oui, le conte peut aller sur ces scènes-là, mais clairement, c'est pas là où il shine le plus. C'est pas là où ce qui nous surprend. Bon, ça reste ma vision de la patente, puis clairement, elle n'est pas partagée. Fait que mettez de l'eau dans mon vin, prenez ça avec un gros grain de sel. Mais toujours est-il qu'à partir de 2017, c'est devenu clair pour moi, je voulais déconstruire la scène. C'était quelque chose qui était important pour moi. Et qu'est-ce que j'entends par déconstruire la scène? Eh bien, il y a tout plein de scènes. À tous les fois où ce que tu présentes un spectacle, tu es en train de créer de la scène. Ne serait-ce que d'avoir une scène physique, d'avoir un stage, pour moi, c'est quelque chose qui construit la scène. Et à chaque fois qu'on construit la scène, on augmente la distance entre l'œuvre et le public. Quand tu vois un show de danse sur la rue, la scène est très petite. Pas petite en espace, mais en distance. Le monde sont proches. À tout moment, il y a un enfant que ça se peut qu'il marche puis qu'il est tout chaud danseur. Il n'y a pas de quatrième mur. Alors pour moi, quand j'allais présenter le conte, j'avais envie de, entre autres, s'il y a une scène, j'ai envie de débarquer de la scène. Déconstruire la scène, pour moi, c'est devenu quelque chose qui s'est manifesté de plein de manières. Déjà, physiquement, j'essaie de réduire la distance physique, le nombre de mètres qu'il y a entre moi puis le premier ou la première spectateur, spectatrice, parce que sinon, je trouve que ça crée quelque chose d'un peu froid. Non, j'ai envie que ça soit poreux, le conte. J'ai envie d'être coincé puis que mon geste, que mes bras s'aient rapprochés de moi, sinon je suis en train de donner des claques d'en face au premier. J'ai envie que le conte, ça soit quelque chose qu'on fasse à l'étroit. Alors, il y a cette distance-là, autant sur un plan horizontal que vertical. J'ai pas envie d'être 30 pieds au-dessus du public. J'ai envie d'être au même niveau que lui. Parce que le promontoire a quelque chose d'un peu... d'avoir quelqu'un sur scène qui est élevé au-dessus de tous, ça envoie quand même un message qui n'en est pas un de proximité. J'aime plutôt partir de proche et qu'à un moment donné, le public s'aperçoit que je flotte dans les airs au-dessus, qu'on a oublié le décor autour parce qu'on a plongé dans le récit, parce qu'on a plongé dans la relation avec ce que j'offrais et non pas parce que je me suis placé sur un crête de lait. Ceci dit, le crête de lait, le petit promontoire vertical, quelque chose qui me surélèverait, qui me surélèverait, serait justifié s'il y a 200 personnes devant moi et que si je suis dans le fond du trou en bas, personne ne va me voir, alors il faut se surélever un petit peu. Mais j'ai envie vraiment d'accorder l'affaire le plus possible, de ne pas être trop élevé par rapport à ce qui est nécessaire. Si c'est justifié, ça me va. Comme si, d'une fête de famille, ton grand-père prenait la parole puis il montait sur une chaise parce que sinon, personne ne le verrait. Il n'est pas en train de péter le plus haut que le trou. Non, il est en train de prendre une chaise pour une raison pratique. J'ai envie que la scène essaye justifiée par le côté pratique et non pas par le côté scénique ou un peu sacré de la scène. Donc ça, c'est un des aspects sur lequel que je trouve vraiment important. Diminuer la distance entre moi puis les gens. Puis souvent, quand je prends des contrats de compte, j'ai beaucoup moins le contrôle sur la disposition de ça. Si on me place dans une salle qui est, par exemple, rectangulaire, les organisateurs, organisatrices, souvent, ils vont avoir tendance à te mettre à un des deux bouts. Ça va créer quelque chose de beaucoup plus linéaire et on va surélever les gens à l'arrière ou si on ne peut pas les surélever, on va te mettre toi sur une scène. Mais au contraire, moi, j'ai envie de me mettre sur l'autre sens. J'ai envie de me mettre sur le bord long et de me mettre au centre de ça pour créer une espèce de demi-lune autour de moi. J'ai envie d'avoir un peu de monde quasiment derrière moi pour avoir à me tourner pour parler à celui qui est à ma gauche. Puis à ce moment-là, celui qui est à ma droite, il va me voir de dos conter une histoire pendant une fraction de seconde. Le monde aura une écoute qui sera inégale. Le monde va recevoir quelque chose qui va avoir du relief. Et c'est quand même une particularité du conte. Ça a du relief. T'entends pas tout d'une manière égale. Il y a pas, j'ai pas envie de prendre un micro pour que tout le monde entende parfaitement ce que j'avais à dire. Non, de toute manière, si c'est un élément qui est essentiel, je vais le répéter parce que je suis conscient que c'est important que tout le monde le sache. Mais des fois, il y a quelque chose que je vais dire juste à la personne, au groupe à ma gauche, un peu à manière d'une confidence, et puis le groupe à ma droite va l'avoir un peu moins entendu. Il va avoir du « qu'est-ce qu'il dit? » Et ça aura été une confidence aux gens. Ça aurait été une complicité que j'aurais eue avec le groupe de gauche et puis j'aurais une autre complicité avec le groupe de droite. Ça sera quelque chose de très personnalisé et ça me plaît, ça, moi. J'ai envie de jouer avec ça. Si tu demandes à des enfants d'organiser un spectacle dans le salon, naturellement, je pense que j'en ai déjà parlé, mais ils vont prendre tous les paramètres les plus clichés possibles. Alors, ils vont donner des billets aux gens, les gens vont s'être habillés propres, venez, il va y avoir du popcorn peut-être, il va peut-être avoir un petit rideau qu'on ouvre, ils vont vous recréer un petit promontoire sur lequel faire leur spectacle. Eh bien, moi, en fait, c'est toutes des choses que j'essaie de déconstruire. De la même manière que Joe Blow qui compte une histoire sur le chantier à midi, il va pas faire semblant d'être sur une scène, il va pas vous donner des billets pour vous raconter une histoire. Non, il vous compte son anecdote comme ça, on the spot. T'sais. Moi, à la petite grève, j'aime bien que les gens payent le spectacle à la fin plutôt qu'au début et ils viennent me payer en main propre. Et j'aime bien enlever l'intervention d'un intermédiaire. On voit ça dans plein de spectacles parce que tu vas avoir quelqu'un à la billetterie. Non, j'ai envie que tu viennes me payer à la fin. Je t'aurais offert ma confiance. Peut-être que tu vas partir pendant le show puis... Tant mieux, dans le fond, si t'aimais pas ça, impose-toi pas ça, puis paye pas pour quelque chose que t'as pas aimé. Va-t'en, c'est bien correct, dans le fond. Et ce serait important qu'on puisse s'en aller pendant un spectacle, ne serait-ce que pour dire que c'est pas bon, t'sais. Et qu'on n'ait pas l'impression que vraiment, ah, ça a fait de sale comble, ouais, mais à la fin de ton spectacle, il restait à moitié de ta sale comble. Le message est-tu assez clair, t'sais? J'ai envie de vivre de ceux qui ont aimé ça, d'avoir cette rétroaction-là, mais aussi que les gens, en me payant, viennent me dire merci pour ce que je viens d'offrir. Et non pas, on te paye au début. Sans trop savoir, on te fait un chèque en blanc, tiens, voilà ton argent, et on te paye pour faire un travail maintenant. Non, au contraire, maintenant, si tu me donnes des sous à la fin, ce sera pour me dire merci sincèrement de ce que je viens de t'offrir. Et on sera beaucoup plus proche de l'échange, je trouve. Ce sera, tout d'un coup, ton argent est moins monétaire. Tout d'un coup, ton argent, c'est une chose parmi d'autres. Ton 5$, ton 10$ a autant de valeur que le merci que tu viens de m'offrir ou la poignée de main. Il y a plein de gens qui me donnent une poignée de main pendant qu'ils me payent et ils me disent « Merci, Patrick ». Et je pense que ça vient de témoigner qu'ils ont eu l'impression d'avoir un rapport avec un individu et non pas avec un spectacle. Et pour moi, c'est ça le compte. De la même manière qu'au début du spectacle, je vais pas dire aux gens « ça commence ». Non, je vais prendre la parole dans le bordel du monde qui se parle entre eux. Je commence à parler, puis les gens, s'ils ont envie de m'entendre, bien, c'est sûr qu'ils ont envie de m'entendre, vous me direz, ils sont venus pour ça. Mais j'ai envie de mériter le silence qu'on va m'offrir. J'ai pas envie de l'imposer. Alors, il y a ce silence-là qui est important pour moi aussi. Et puis, le public a le droit à ses commentaires. À plein de moments, il y a des gens qui répondent des « oh », des « un », des « ben là », ou qui partent à rire. Et je dois laisser de l'espace à ça. Je dois laisser exister le public. Je suis pas dans ma petite bulle sur scène avec mes écouteurs à m'entendre parler, pas entendre la réaction du public. Non, je suis en rapport avec ce public-là. J'ai envie que ça s'aille humide ici et que de sentir le public. Donc ça, c'est une autre manière de déconstruire la scène pour moi. Il y a le costume que je... Par réflexe, au début, quand je comptais, je mettais un costume. C'était un des seuls éléments de décor que j'avais et j'avais envie de présenter quelque chose qui, comme je vous le disais, qui soit monnayable et qui vale 5$ quand j'ai commencé parce que je voulais vivre de mon spectacle. Alors, je me donnais au moins la peine de me faire un costume qui était une espèce de petit soute des années 1800 que j'avais cousu avec la mère d'un de mes chums. Et au fil des années, je crois que c'est dans les environs 2021, je crois que j'ai abandonné ce costume-là parce qu'il créait une distance finalement qui n'était pas justifiée. Il donnait l'impression que j'étais un personnage, alors que pour moi, compter, c'est d'abord d'être moi-même Patrick, le compteur animateur qui est en relation avec vous, qui dit « installez-vous, il vous manque-tu une place, voulez-vous une couverte? » Bon, quelle histoire qu'on se compte à soir, celle-là, et paf, ça décolle. J'ai pas envie de mettre une cape pour te donner l'impression que mon histoire est bonne. J'ai envie de mettre le T-shirt que j'avais sur le dos aujourd'hui. Et j'ai eu beaucoup de discussions à ce sujet-là. Il y a des conteurs que j'ai rencontrés, une conteuse qui me disait C'est une marque de respect d'au moins t'habiller proprement sur scène, mais pas quelque chose qui est sali, tu sais. Et je voyais ce qu'il voulait dire et je suis vraiment d'accord que c'est pour que de ce que je constate pour elle, c'était un signe de respect, un peu quasiment comme le vouvoiement qui était. Ça serait un autre grand débat, mais qui était un signe de respect vis-à-vis du public. Regardez, je me donne vraiment la peine. Vous êtes là, vous me confiez de votre temps, je vais vraiment en prendre soin. Et comme je vous dis, tout ça, moi, c'est ma vision à moi et vaut ce qu'à vaut. J'avais une discussion à un moment donné avec un autre compteur qui a roulé sa bosse depuis longtemps et il n'était pas du tout d'accord avec moi. Quand je disais que je devais monter sur scène avec le linge que je porte aujourd'hui, il me disait non, la scène, c'est sacré. Et pour lui, c'est ce sacré-là qui fait qu'il arrive à atteindre une espèce de lieu de confidence sur scène où est-ce qu'il réussit à être vraiment sincère, à se livrer sans réserve au public, à se dénuder, alors que lui, dans vie, il est timide, il est maladroit, mais tout d'un coup, sur scène, il se retrouve dans cette grande cathédrale-là où il se sent à la fois menacé puis en sécurité et qui arrive à sincèrement poser son œuvre. Moi, à l'inverse, j'ai envie de prétendre que sur scène, eh bien, c'est pas différent de dans la salle. Et on s'ostinait ensemble et me disait « Non, Patrick, c'est pas vrai que quand t'es sur scène, t'es n'importe qui dans la salle. T'es justement sur scène parce que t'es pas n'importe qui dans la salle. On a évalué que ta parole avait de la valeur, fait que présente-la pas comme si elle n'en avait pas. » Et d'un certain point de vue, je suis d'accord avec lui, mais finalement, je me rends compte que moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de dire que nos paroles ont de la valeur. Mais pas nos paroles de n'importe quoi. Quand tu jases de météo avec ton voisin, ça remarque que ça a peut-être une grande valeur. C'est peut-être ta manière de sortir de ton isolement puis d'avoir un lien social tout d'un coup. Mais j'ai envie d'être commun, d'être ordinaire pour célébrer notre manière ordinaire de porter la parole, de porter notre répertoire. Et je suis bien conscient qu'il n'y a personne qui, pendant son heure de lunch, raconte la chasse-galerie à sa job, mais j'ai quand même envie de dire que ce petit théâtre-là à la job, quand tu comptes ton anecdote de métro de la veille, il est important. J'ai envie de déconstruire les cravates, j'ai envie de déconstruire l'espèce d'esthétisme de la société. Veux pas, notre rapport aux vêtements dans la société a quelque chose de complètement décalé. On est loin de quelque chose qui est juste pour nous vêtir. On est d'accord que la plupart de nos vêtements servent à afficher notre statut social et à jouer à notre petite royauté. Et souvent, on pète plus haut que le trou. Souvent, on a dans tout notre rapport à la consommation, on a des biens de consommation qui appartiennent à des moyens qu'on n'a pas. La preuve, tout le monde a une carte de crédit qui est complètement remplie. La preuve, tout le monde habite une maison qui appartient à la banque. Moi, j'ai envie de te montrer un gars qui appartient à son niveau de vie puis qui n'en est pas honteux, qui n'essaie pas de le cacher. Je suis pas là pour te faire la promotion de la pauvreté, mais quoique des fois, mais je crois qu'on a un rôle en tant que personne qui occupe une scène, en personne qui ont un exposure, qui ont l'attention, de présenter, d'offrir peut-être des modèles différents. Je trouve qu'on s'appauvrit collectivement en se donnant envie de plus toujours. On se crée, on se rend insatisfait, mais à tout jamais. Et c'est peut-être naïf de ma part, mais j'ai l'impression de combattre ça en comptant en crocs, puis en gougoune avec des licornes dessus. J'ai te compté de la même manière que si un de tes chums avait pris la parole autour du feu et de pas me badrer de ça, de pas moi-même percevoir ça comme si c'était un obstacle pour la relation qu'on peut avoir, mais au contraire, un tremplin vers une certaine sincérité puis une authenticité. Mais c'est vraiment un choix artistique. Et comme tous les choix artistiques, eh bien, une chose et son contraire seraient valables. Mais moi, c'est là où je me suis campé là-dedans. Mais je ne vous cacherai pas que quand je suis sur scène, même à mon spectacle, où est-ce que je suis en gougoune d'un roche à côté de vous autres à gérer mon feu, même si j'essaie de déconstruire cette scène-là, je suis quand même conscient que je suis sur une scène. J'ai des projecteurs sur moi, j'ai un public en entier qui me regarde. Ce rapport-là, public, compteur, crée de la scène malgré tout et crée quand même un certain décalage dans ma manière d'être. Des fois, les gens vont me dire que j'ai un beau personnage de compteur. C'est juste de dire que j'ai un personnage de compteur, même si c'est moi-même, je suis quand même en train de présenter une facette de moi-même. Je suis en train de te présenter la version de Patrick qui sacre un peu moins que d'habitude, qui va pas se gratter le cul en comptant, qui est conscient de tout ça, qui fait attention à ce que tout le monde ait bien entendu ce qu'il dit, qui va répéter les choses. J'ai une conscience du public nécessairement quand je suis sur scène qui me fait être d'une manière différente. Mais en même temps, je sens que c'est quelque chose que je fais dans chacune de mes relations. Quand je passe du temps avec tel ami, eh bien, c'est telle facette de Patrick que j'entretiens. Et quand je passe du temps avec tel autre groupe de personnes, c'est une autre facette de ma personnalité que j'entretiens. On est des êtres entiers, je pense, mais qui se manifestent facette par facette. Mais c'est quand même juste de dire que quand je suis sur scène, je suis pas le Patrick de tous les jours, mais une espèce de version un peu exubérante de moi-même, très fébrile, qui est sans filtre, parce que c'est ça que j'ai envie de présenter. Alors ça, c'est plein d'éléments qui, pour moi, déconstruisent la scène. Mais pourquoi déconstruire la scène? Bien, c'est que j'ai envie de la proximité. Mais pourquoi la proximité? Bien, c'est que je pense qu'elle permet que c'est ça le canevas sur lequel on peut poser une certaine texture de conte. Je me souviens, il y a une fois, on était chez Samuel, un conteur en Bretagne, et il avait organisé une soirée de conte chez lui pour me présenter à ses amis, et puis on avait configuré tout ça, il y avait des rangées de chaises, et moi, je comptais à côté de la cheminée dans cette vieille maison de pierre-là. Et Samuel m'avait dit, juste avant que je commence, j'ai dit aux amis que tu ferais peut-être un spectacle d'une demi-heure, une heure, tu sais, ils sont vraiment là pour voir un Québécois raconter. Et puis Sam, il dit, puis moi, je raconterai un peu après parce qu'ils sont quand même là pour me voir aussi. Et puis il me dit, il y a une petite fille qui a demandé si elle pourrait pas compter elle aussi. Une petite fille de 8 ans qui avait une histoire qu'elle voulait partager. Puis je me disais, mais ça, c'est génial, ça. On va toucher cette matière-là, ce contexte-là, où est-ce qu'on est plus qu'un ou deux à raconter, où est-ce qu'on n'est plus juste des professionnels, mais qu'on est juste plein de monde qui joue à se raconter des histoires. Bon, ça a eu lieu, je raconte, Samuel raconte après, et puis on se tourne vers la petite fille. Et on lui fait signe, c'est à ton tour, tu sais. Elle se défile, bien sûr, elle est trop gênée parce qu'il y a une quarantaine d'adultes qui sont là dans le salon, parce que la chaise sur laquelle je viens de compter est chaude. Veux pas, il y a quelqu'un qui l'a fait pendant une heure. Il y a quand même une envergure, une amplitude là-dedans. C'est comme si c'était gênant de prendre le micro après que Céline Dion ait chanté, tu sais, dans un karaoké. Pourtant, le karaoké appartenait à tout le monde jusqu'à ce que Céline Dion prenne le micro dans le karaoké puis à scraper le karaoké dans ton bar. Alors, la petite fille voulait plus compter et je trouvais ça dommage, mais bon, OK, on laisse filer et puis le consentement est important, on la forcera pas à compter. Et l'instant d'après, le spectacle de conte, entre guillemets, est terminé. Tout le monde s'en va manger, on attrape des bouchées dans le coin, ça se met à jaser. Puis moi, je me retrouve à être assis près de la cheminée. Je suis assis par terre, puis il y a deux, trois des amis de Sam qui sont là. Puis il y en a un qui dit à Sam, « Hey, c'est drôle l'histoire que t'as contée, ça m'a fait penser à l'autre histoire que t'avais déjà racontée qui parlait de ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. » Puis le gars, Vince qui s'appelait, s'est mis à raconter une histoire, tu sais, une histoire que Sam lui avait racontée. Puis un autre qui fait du pouce là-dessus, puis un autre qui fait du pouce. Et on n'était pas dans un beau petit cercle de conteurs. On n'avait pas mis toutes nos petites chaises face à face. Non, il y en a un qui était en train de, je sais pas, se décrotter les ongles. Il y en a un autre qui était sur son sel, en train de parler, mais de regarder son écran aussi. Un qui mangeait des chips. Chacun avait sa posture d'écoute qui lui était propre, qui lui était naturelle, rien de forcé. Puis, tout d'un coup, je l'ai vu. La petite fille s'est pointée le bout du nez, est arrivée doucement à travers un groupe de 5-6 adultes qui étaient là, tu sais. Et puis elle nous a demandé si elle pouvait raconter son histoire. Et c'est là que je me suis dit que cette espèce de configuration-là, un truc qui n'est pas officiel, un truc qui est beaucoup plus organique, il venait de réparer quelque chose. Tout d'un coup, il libérait la parole. Tout d'un coup, tout le monde avait accès à sa propre parole parce qu'on était dans un lieu beaucoup plus doux, beaucoup plus chaleureux. Et c'est de ça que j'ai envie. Je crois qu'à ce moment-là, la configuration d'une scène déconstruite avait réparé quelque chose. Tout d'un coup, on se réappropriait nos paroles en tant que collectif, en tant qu'individu. Même un enfant osait prendre la parole dans ce contexte-là. Dans ma dernière tournée en Bretagne, il y a une fois où est-ce que j'ai rencontré un groupe de conteurs qui se faisaient des soirées à domicile, où est-ce que c'était un cercle de conteurs-conteuses, où est-ce qu'on va se raconter des histoires entre nous pour partager nos répertoires. Et il y avait un peu de public quand même. Chacun avait amené des amis. Et on s'était installé dans le salon de la personne chez qui on était. C'est une espèce de grande pièce de quasiment 20 pieds par 15 pieds. Et naturellement, on avait placé les chaises en cercle, ce qui créait une espèce de grande réunion des AA. Vous voyez un peu le setup. Et malgré que le cercle, c'est quelque chose qui se veut bienveillant, qui se veut très horizontal, personne n'est plus important qu'un autre, je trouve qu'il y avait quelque chose de vraiment non fluide là-dedans, de non naturel. C'était quand même artificiel. Quand est-ce qu'on occupe nos salons de cette manière-là? Non, normalement, il aurait fallu du monde dans le divan, du monde à table à côté, du monde debout à côté sur la poutre que là, du monde qui, par la porte patio en fumant des clopes, écoute quand même les histoires. quelque chose de beaucoup plus naturel. Il y avait une espèce de gêne où est-ce que, OK, il y en a un qui se met à raconter. Et là, c'est quand même une autre dynamique, mais il y en a un qui se met à compter. Et puis, à la suite de ça, il y en a un autre qui se met à compter. Puis, une autre, et une autre, et une autre, et un autre. Mais rapidement, chacun se retenait à deux mains pour pas compter, pour s'assurer d'avoir laissé la parole à tout le monde. Au lieu d'avoir la petite dynamique organique où est-ce qu'il y en a un qui essaye de prendre la parole, mais il se fait couper par un autre. Et naturellement, bon, celui qui vient de couper fait « Ah ouais, j'ai pris pas mal la parole, m'en retenir, c'est mon tour de me retenir. » Mais il y avait, au contraire de ça, plein de silence, des espèces de petits malaises parce qu'on était là pour que tout le monde prenne la parole un peu, tu sais, que certains l'essayent. Mais il y avait quand même quelque chose d'artificiel dans notre idée naturelle. Pourquoi déconstruire la scène? Entre autres, je trouve que la construction de la scène vient nourrir l'élitisme en art. Qu'est-ce que j'entends par élitisme? Ben, pensez à des Taylor Swift, des Céline Dion. Tout d'un coup, nos artistes appartiennent à l'élite. Et plus ils sont de l'élite, plus le spectacle est bon, plus on peut être fan, plus il y a des grandes communautés qui les entourent. Et c'est pas pour rien quand même, parce que, je veux dire, Céline Dion a travaillé sur sa manière de chanter, sur sa manière d'occuper la scène pendant combien de temps? C'est un travail d'orfèvre et c'est un travail d'une vie pour peaufiner son art. Et elle arrive à chanter quand même d'une manière que, ben, j'imagine, je connais pas le chant tant que ça, mais j'imagine qu'il n'y a pas des centaines de personnes dans le monde qui arrivent à le faire aussi bien. Alors, elle a vraiment porté au loin l'art de chanter, mais du même coup, lorsqu'on voit un spectacle de Céline Dion, je pense pas que ce que ça nous inspire, c'est nécessairement de se dire « Hey, j'ai envie de faire la même chose. » Oui, il y a certaines personnes qui vont avoir envie de se diriger vers ça, mais je pense pas qu'elle rend au public le goût du petit chant, le goût de chanter à la maison, le goût de chanter dans la douche, le goût de chanter en cuisinant, en marchant. Non, au contraire, ça nous donne envie d'être spectateur, de nous mettre des écouteurs dans les oreilles puis d'écouter Céline encore et encore et encore. Mais le contraire d'élitisme dans le chant, ce serait l'époque où tout le monde connaissait les mêmes chansons et qu'il n'y avait personne qui chantait particulièrement mieux que d'autres. On était juste tous heureux de porter ce patrimoine-là. Ça meublait notre quotidien. C'était un partenaire de vie, une chanson ou un répertoire. Et l'art occupait quand même une toute autre place. Non, maintenant, par l'élitisme, entre autres, l'art est devenu un bien de consommation. C'est entre autres un outil de la bourgeoisie. Pense aux grandes peintures. On est juste en train de fabriquer des espèces d'objets de spéculation qui sont des investissements de plus en plus certains. Si tu veux faire de l'intérêt, si tu veux faire grandir ton capital, les œuvres d'art sont une valeur sûre. C'est quand même... Est-ce que c'est ça le propre de l'art? Mais une des rares disciplines artistiques pour moi qui a résisté à ça malgré tout, c'est le skateboard. Et là, vous vous dites, c'est pas une discipline artistique. Eh bien, j'aimerais quand même remettre ça en question. Il y a souvent un rapport au public quand il y a du skate qui est fait. Il y a souvent quelque chose d'impressionnant et on fait des vidéos, il y a du monde qui sont là pour te voir. Oui, tu vas pratiquer ton move pendant des centaines d'heures, tu seul chez vous, mais en même temps, c'est pour le présenter devant un public à un moment donné. Fait qu'il y a quand même un rapport scénique dans tout ça. Le rapport à l'autorité, le rapport à la police. Il y a quand même un théâtre qui habite le skateboard. Même les plus grands, souvent, ce qu'on va voir, c'est le 300 échecs avant la fois où ils ont réussi le move. Et ça, pour moi, c'est une résistance à l'élitisme, c'est une résistance à la perfection. Le skateboard devient la tentative, la persévérance, la poursuite d'un objectif. Et c'est ça que je veux voir, moi, pendant 5 minutes, m'a regardé la vidéo de toi qui t'es fendu dans ces marches-là. Et ça m'a fait vivre un million d'émotions. 1000 fois, je me suis tenu les mains. 1000 fois, je me suis tenu à la tête. J'ai retenu mon souffle. Même ma mère, en voyant cette même vidéo-là, elle ne tripe pas sur le skate, mais elle vivrait des émotions, c'est certain. Et à la fin, conclusion de l'histoire, paf, il l'a réussi. Et c'est un soulagement, c'est un sentiment d'accomplissement. Cette chose-là est résolue pour nous. Mais on se doute que s'il retentait, il se replanterait peut-être 100 fois. Il y a quasiment quelque chose d'aléatoire là-dedans. Mais l'élite a présenté ses 1000 tentatives où est-ce qu'elle a échoué. Il y a une mise en valeur de l'échec qui est tellement précieuse là. Et je crois que le skate a réussi cette chose-là où est-ce que l'élite, entre guillemets, a donné envie à la population de tenter le coup elle aussi. De tenter son coup. Chacun va essayer ce qui est à sa portée. Et ta portée ne sera pas ce que tu vas réussir 100% du temps, non. Ta portée va être ce que tu vas réussir seulement 1% du temps. Il est là ton canevas, c'est là où tu travailles. Quand on voit Céline Dion, on n'a pas l'impression qu'il y a des chances qu'elle se plante sur scène. Aller dans son 100% de réussite. Oui, ce qu'elle fait est magnifique, ben j'imagine, mais c'est pas un miracle qu'elle l'ait réussi ce soir. Non, c'est le fruit d'un travail incroyable qu'on ne présente pas du tout. Alors, c'est ce que j'avais à dire sur la déconstruction de la scène. Vous aurez peut-être remarqué que je dois avoir dit à peu près comme 2000 fois les mots « j'ai envie » dans cet épisode-là. J'ai envie de ci, j'ai envie de ça, j'ai envie. Et outre un tic verbal parmi tant d'autres, je pense que c'est ma manière sécuritaire de vous dire que tout ça, c'est pas une vérité en soi, que quelque chose, que quelqu'un ou quelqu'une qui compterait d'une autre manière et pas du tout dans le tort, mais que c'est vraiment comme mes aspirations. Et souvent, c'est même pas des choses que je fais bien, c'est justement, c'est quelque chose vers lequel je veux me diriger, c'est quelque chose que j'espère qui transparaît, mais c'est peut-être pas ça que j'exprime. Alors, c'est pas des choses accomplies, mais plutôt des azimuts vers lesquels... Des azimuts, ah, c'est... Une métaphore de boussole. C'est dit. Alors, c'est plutôt des azimuts vers lesquels je me dirige. Voilà, on va finir sur une image de boussole. Ah oui. Et merci d'avoir été des nôtres. Merci Marianne de m'avoir encore une fois écouté. Et on se retrouve dans un prochain épisode où je vous parlerai de ce qu'a été pour moi la réalité de vivre de l'art en Gaspésie. Donc, vivre des arts sur un territoire rural. À tout de suite. Vous écoutiez « Il était une fois dans l'Est », une production de La Petite Grève. Le titre original est de Alexandre Gauthier, la musique originale de Guillaume Arsenault. À la co-animation, Marianne Boudreau, au montage, Thomas Wadam Gagnon. Et à tout le reste, moi-même, Patrick Dubois. Cette production a été financée par La Petite Grève, ainsi que la MRC Avignon et Boralex.